Et Richard vous êtes où, vous êtes à Paris?
Richard Taxi, ouais. Vous êtes toujours fidèle au rendez-vous, à ce que je vois.
Ça y est, on a attaqué?
Oui, on a attaqué. L'antenne est ouverte depuis quelques minutes, là. Quelques secondes.
Ah bah alors, si on a attaqué, je suis bien confiné dans les salles comme toi.
Florence Tillier, toujours fidèle au rendez-vous en duplex d'Amiens.
Oui, toujours confiné aussi sur Amiens, pareil.
Et,
il y a quelques kilomètres.
Et aujourd'hui, on va faire un truc génial. On va parler radio. Si, si. Avec un grand monsieur. Et c'est pas n'importe qui. Il est grand, il fait 1m87. Il s'appelle Eric Jean-Jean. Générique, s'il vous plaît.
Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Michel Berger.
Les artistes ont la parole, bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. Très heureux de te retrouver, toi, Eric Jean-Jean. Ça fait,
merci.
Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas croisés. Quelques mois. Là, on va pas dire ça fait 30 ans. Là, ça fait quelques mois. C'est vrai qu'on s'est...
30 ans, non. Combien de fois? Oui, ça fait 30 ans. Putain. Ah ouais, quand même.
Ah bah oui, parce que...
Tu étais un enfant.
Toi aussi. Tu étais très jeune. Eric Jean-Jean, on se présente, ouais, il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette émission. On retrouvera Marie Francisco en duplex de Nyons, on retrouvera Florence Sautillet pour sa chronique psy, ça sera en duplex d'Amiens. Richard Taxi, lui, il est en duplex depuis son salon. Eric Jean-Jean aussi, tout le monde est là et c'est ça qui est bien. Vous voyez, le confinement, ça rapproche quelque part.
Les artistes ont la parole. La minute nouveauté.
Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sont comptés, sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous.
Eric Jean-Jean, que vous pouvez retrouver actuellement sur RTL et RTL2 avec le Drive. Et on sait, on t'observe, Eric, on sait que tu as fait des super sondages.
Ouais, c'est pas mal, pourvu que ça dure. Mais le Grand Studio, ça a toujours été une émission assez porteuse. Et le Drive, ben, depuis 4 ans là, que j'ai commencé, ça marche bien, c'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà.
Mais ça marche très bien, parce que là, il a fait un bond dans les relais médiamétrie vertigineux.
Vertigineux, ouais, enfin ça marche bien, voilà, et genre on a de la chance, mais tu sais, on sait jamais vraiment pourquoi ça marche pas, et on sait jamais vraiment pourquoi ça marche bien, donc quand ça marche bien, faut être content, et quand ça marche pas, ben faut travailler.
Et ouais, voilà, toujours travailler, ça c'est la règle d'or. J'ai bien retenu ma leçon, Eric. Ça y est, il s'est sauvé, il est parti. Alors, peut-être que...
Non, je suis là, je fermais la fenêtre, il y avait trop de bruit. Avec toi.
Il y a du bruit, non. Non, on est tous confinés, il n'est pas 20h encore. Eric Jean-Jean, on a plein de questions à te poser. La dernière fois que tu étais venu dans Les Artistes ont la parole, c'était pour nos retrouvailles, effectivement, au bout de 30 ans. Tu nous avais parlé que tu avais une passion cachée, enfin une passion cachée plus ou moins. On sait que tu aimes la plongée sous-marine.
Bah ouais, je devrais normalement être en train de plonger là, là où je te parle, mais il se trouve qu'on n'a pas pu prendre d'avion, qu'on peut pas quitter le pays, qu'on peut pas quitter son appartement, donc ouais, j'adore ça.
Tu adores ça, et parallèlement, ce que tu fais pour contrecarrer le coup, on voit que tu fais des petites histoires sur les réseaux sociaux, en vidéo, comme Dominique Duforest justement.
Ouais, j'ai vu que Dodo le faisait aussi. En fait, mais Dodo, il n'avait pas fait un livre là-dessus, il me semble qu'il avait fait un livre.
Oui, il aime bien écrire, hein, Dodo. Oui, Eric.
Ouais, moi je me suis dit, je ne sais pas faire grand chose. Le truc que je sais faire, c'est raconter des histoires. Alors, je m'en raconte quelques-unes. Et du coup, tu vois, pour essayer d'aider les gens, en fait, c'est un peu con. Moi, je ne sais pas soigner les gens. Je ne sais pas fabriquer des masques, je sais que raconter des histoires. Alors je me suis dit peut-être que si je raconte des histoires, ça fera passer un bon moment aux gens. Et voilà.
Mais la voix, ça peut soigner certains mots.
Ouais, peut-être. En tout cas, les histoires, mais le rire. Hein, je pense à Richard qui est avec nous. Le rire, ça fait guérir de plein de choses aussi. Donc ouais.
Mais j'ai une question drôle.
Richard Taxi.
Dis-moi, Richard.
Alors une question à Eric Jean-Jean. Est-ce que vous êtes né à Baden-Baden?
Non. Non, je ne suis pas né à Baden-Baden, je suis né à Blaye-Blaye, mais je ne sais pas si ça se dit, ça. C'est en Gironde, on remarque à 2-3. Ouais, mais tu sais d'où ça vient, c'est assez rigolo. C'était les gens du voyage ou les manouches quand on a commencé à donner les noms de famille au Moyen-Âge. Quand ils n'avaient pas de nom, on doublait leur prénom. Ça vient de là. Ce qui est assez cool, moi je suis
comme les tueurs. Comme les tueurs en série.
Exactement. Mais moi c'était le côté pas tueur, mais avec un couteau quand même.
Et là t'as un côté killer quand même au niveau du micro, Eric.
Oui. Mais ça fait quand même 3 prénoms, Eric, Jean-Jean.
Ouais, c'est vrai. Encore j'en ai un quatrième que je dirais pas, encore ce truc de ma gueule. J'ai 2 prénoms et 2 prénoms dans mon nom de famille. Ça fait beaucoup.
Il y a des prénoms cachés.
Eric, Emmanuel.
Ça crée une intimité.
Ouais, exactement.
Richard Taxi.
Non, je pensais que vos parents étaient bègues, c'est tout.
Ah, ça aurait été rigolo, mais non, même pas. Même pas, en plus. Non. C'est, en plus, pas d'imagination. Ils ont gardé le nom de leurs propres parents. Donc, c'est vraiment. Je ne sais que dire. Je m'en excuse pour eux. Déjà, ils m'ont pas donné un prénom composé. C'était plutôt cool.
Pour répondre à la question de Richard Taxi, pourquoi une barbe, Eric?
Je s'appelais à ma meuf. Ça va comme réponse ou pas?
Ouais, voilà, c'est une réponse.
Et il y a un autre avantage, c'est quand tu prends du poids, ça se voit moins que tu as des grosses joues. Donc, comme j'ai pris un peu de poids ces 2 dernières années, là, je me dis que ça se voit moins. Mais surtout, ouais, ça plaît à ma chérie.
Ouais, mais ça attrape le virus.
C'est vrai, putain, mon pote Pelot arrête pas de m'engueuler en disant « Ah, cette barbe, ah, cette
ouais,
barbe !»
Ouais, bah, il dit des conneries parce que les cheveux, c'est pareil, alors. Donc, il faut se raser les cheveux.
Oui, mais sauf que les cheveux sont moins loin de la bouche.
Ah,
et,
ouais.
et donc c'est moins loin des orifices qui peuvent permettre au virus de rentrer. Mais oui, t'as raison, les cheveux aussi. Alors, si on doit se raser le crâne en plus, ça peut...
Et ceux qui ont des gros sourcils, pareil.
Mais la question qu'on se pose, quelle tête nous allons avoir à la sortie du confinement? Parce qu'on trouve pas de coiffeur, on trouve pas de coiffeuse, on trouve rien, quoi. Donc, on va avoir des têtes, et sans parler des kilos. Parce que c'est compliqué de faire du sport. Chez soi.
Mais toi, t'as tellement grossi, Michel, que tu rentres pas dans le cadre.
T'es en train de te faire foutre de ta gueule.
Oh, il n'arrête pas, lui.
Le mentor, il pourrait me défendre.
Non, il cherche pas la vanne.
On est d'accord pour le mot génial,
oui,
c'est
devient,
pareil.
Ça devient une virgule. On a tous des tics de langage, honnêtement. Moi, je crois que j'en ai 2-3 qui parfois m'exaspèrent. Je sais plus trop là, je les ai pas en tête, mais j'en ai. Et puis alors à la radio en plus, faut lutter contre ça tout le temps, tu vois. C'est des mots béquilles. Je sais pas comment Richard tu gères ou comment vous gérez tous ou Michel, mais quand on parle à la radio et qu'on est en train de faire de l'improvisation, il y a un moment où le petit quart de seconde qui permet de réfléchir à la phrase d'après. Souvent, on a un mot qui arrive.
Les artistes ont la parole. La minute de psy, Florence Sautillet.
Bonjour les amis, bonjour Michel, bonjour l'équipe. L'humour et la psychologie, on va aborder cela aujourd'hui. Sous quel biais? Est-ce que ça peut faire bon ménage ensemble? Psychologie, humour? Eh bien oui, détrompez-vous, c'est faisable. D'ailleurs, tous nos artistes que l'on reçoit nous le démontrent bien à travers leurs films, à travers leurs pièces de théâtre, les chansons, la télévision, que l'humour fait totalement partie intégrante de la vie de tous. Hein, on y a tous été confrontés, même dans des cas complètement compliqués et difficiles. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ben, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on passe une période quand même très particulière et ça ne nous empêche pas de garder le sourire et le moral. Alors, peut-on rire de tout? Les avis sont partagés. Hein, ça va dépendre également de quelle manière c'est amené. Et, deuxième question, est-ce que le rire est-il contagieux? Il semblerait quand on a un fou rire, par exemple, on l'a tous connu d'ailleurs, que ça tombe pas toujours au meilleur moment, c'est le moins qu'on puisse dire, il semblerait que le rire est contagieux à une condition. Laquelle est-ce? Eh bien, c'est que les rieurs nous ressemblent, c'est-à-dire que nous avons, qu'on retrouve un effet miroir en face de la personne qui est en face de nous, que l'on s'y retrouve. Parce que c'est un échange, le rire. Et on n'a pas envie d'échanger avec des personnes avec lesquelles on ne se retrouve pas. Le rire a également une superbe vertu. C'est le meilleur antidéprime qu'il soit. Et en plus, il a l'intérêt de créer du lien social. Le lien social qui nous fait défaut à l'heure actuelle, puisqu'on ne peut pas réellement créer un lien social physique, on en est dépourvu. Mais heureusement, il permet également aujourd'hui, à travers le téléphone et à travers la radio, c'est ce que nous faisons avec vous, eh bien, au moment même, à ce moment même, de pouvoir vous faire partager tout ça, et ça fera tout à fait l'affaire. Donc, deux petits conseils pour terminer cette chronique. Le premier, c'est de rire. Le deuxième, de faire un travail psy. Et oui, on ne fait pas un travail psy seulement quand on est fou, bien au contraire. Et sans mauvais jeu de mots, pour la fin, eh bien, octroyez-vous un fou rire. Bon rire à tous, bonne semaine à vous les amis, à bientôt.
En parlant de radio, on va écouter de la musique, Éric Jean-Jean. On s'en sait que t'as été noyé dedans, hein. T'as été dedans, tu racontes même des belles histoires. Alors ce que je te propose, Éric, c'est de choisir le morceau que tu veux, puis de nous raconter une belle histoire sur cette chanson.
Écoute, je te propose U2, Where the Streets Have No Name.
Par exemple, ça c'est la chanson préférée des animateurs pour prononcer le titre. Et cette chanson, elle a une histoire.
Alors, cette chanson, l'histoire, évidemment, c'est dans un quartier de Dublin, en Irlande, où on n'a pas besoin d'avoir des noms de rue. En fait, en fonction des maisons, on connaît la classe sociale des gens. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas la peine de dire on va à telle rue, on va chez les riches, etc. D'ailleurs, c'est pareil en France. C'est ça qui a inspiré Bono pour la chanson de cet album qui s'appelle The Joshua Tree. Et puis surtout, c'est là où c'est sur cette chanson qu'ils ont fait le fameux clip. Ils ont installé une scène sur le toit d'un vendeur de spiritueux à Los Angeles. Ils ont annoncé à la radio qu'ils faisaient un concert gratuit depuis le toit, exactement comme le dernier concert des Beatles sur le toit de leur maison de disque à justement sur Baker Street, et ils ont commencé à enregistrer, ils ont rejoué plusieurs fois la chanson, ils ont fait semblant que les flics arrêter le concert, ce qui est pas tout à fait vrai, mais ça donne un enregistrement de clip qui a gagné MTV Music Awards, et qui est un des plus beaux clips de YouTube. Voilà, ça c'est fait.
Musique de
j'aime beaucoup cette chanson.
Musique.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Les artistes ont la parole. Talk show, multimédia, numéro 1.
Les artistes ont la parole, deuxième volet de cette émission. Éric Jean-Jean en notre compagnie. Éric Jean-Jean qui est à l'autre bout de la région parisienne par rapport à nous. Éric Jean-Jean, toujours fidèle au rendez-vous, un homme de radio. Il est là avec nous. Eric.
Et de télévision, j'ai cru comprendre.
Ouais, j'ai fait longtemps de la télé, j'en fais pas en ce moment, je fais que des
mais quel genre d'émission?
Des documentaires. J'ai présenté pendant 7-8 ans l'émission du matin sur France 3 en direct. Tu sais, il y avait les deux émissions du matin, il y avait
C'est encore mieux le matin.
Télématin, ensuite il y avait Sophie Davant, puis après sur la 3, c'était moi. Et c'est là d'ailleurs, je pense que je t'avais reçu à la télévision sur une émission de matin où il y avait des chefs, tout ça, enfin bref, le truc que tout le monde un peu a fait. Voilà, mais j'ai fait des émissions musicales, TF1, M6. Et là, maintenant, je fais plutôt des documentaires sur la musique. Ça fait maintenant, je sais pas, 7-8 ans que que je veux faire que de la musique, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Et qu'à un moment, faire de la télé pour faire de la télé, à part pour gagner de l'oseille, faire de la télé pour faire de la télé, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Donc, j'ai lâché.
Mais vous qui faites de la musique, Eric, vous avez dû rencontrer des sacrées vedettes. Qui c'est qui vous a le plus fasciné?
Oui, parce que je suis très fan de McCartney, parce qu'il est le père de tous. Madonna.
Non, mais, fasciné en interview, hein.
Bowie.
Ah ouais?
Bowie, fascinant. Bowie était fascinant. McCartney était très, incroyablement humble et bien élevé, ce qui est étonnant quand on est l'une des plus grandes stars de la planète. Après, moi, j'ai travaillé 10 ans pour Johnny quand même, donc, ça aussi, c'est fascinant. Johnny Hallyday était fascinant. Ce métier, là, je parlais de U2 tout à l'heure, ce métier m'a permis de rencontrer toutes mes idoles. Prince, Jackson, je les ai tous croisés et interviewés, c'était dingue. Toute ma carrière est bâtie au départ sur le fait qu'à 23 ans, quand je suis arrivé sur une radio qui s'appelle Énergie, j'étais le seul à parler anglais, à être capable de faire de la traduction simultanée. Et donc, Guenzini m'a dit, tu fais des interviews. Et je n'en avais jamais fait de ma vie. J'ai appris des interviews en interviewant Lionel Richie, Madonna, machin. Et du coup, voilà. Et quand je suis arrivé à Énergie. Mais
j'en apprends tous les jours sur toi, Eric. Je ne savais pas tout ça. Florence Sautillé.
Et aujourd'hui, Eric, quelle personnalité aimerais-tu rencontrer?
Il y a des gens, et aujourd'hui, je suis plus fasciné. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer Stephen King. En ce moment, je me suis passionné pour l'univers des écrivains. Alors, j'en ai rencontré que des Français, mais rencontrer Stephen King, si je devais rencontrer un mort, j'adorerais rencontrer Lennon.
Le docteur Raoult.
Mais tu sais, il doit être passionnant si tu l'enlèves. Le gars, il a une très forte personnalité. Moi, je comprends pas ce qu'il fait. J'espère qu'il a raison parce que il a peut-être sauvé des millions de vies. Et en revanche, ce mec a l'air fascinant, quoi. Un type qui a son opinel dans son petit frigo, qui a les cheveux longs et qui est un des plus grands pontes mondiaux, de la médecine. Ouais, j'aimerais bien parler de rock'n'roll avec lui. Lui demander ce qu'il lit, ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il fait marrer.
Vu le physique qu'il a, il doit adorer la musique, hein.
Mais ouais, je suis sûr qu'il adore. Il a une tête à écouter du métal. S'il faut, ce mec, c'est un dingue de Rammstein ou de Metallica. Putain, c'est génial. Enfin, vraiment. Alors là, pour le coup, ouais, j'aimerais bien. Mais tu sais, sorti du contexte, parce que je n'ai aucune connaissance médicale et puis surtout encore moins politique, là, eu égard à ce qui se passe en ce moment. Mais rencontrer ce mec-là et lui dire, merci de ce que vous avez fait, la crise est finie. Si on parlait de vous, ouais, j'adorerais ça.
Les artistes ont la parole. La minute. Nouveauté.
J'entends chanter par les fenêtres. Au monde abîmé, nous offrons ce cadeau. Si dans les rues le temps s'arrête, nos voix enlacées portent l'espoir.
Un mec que tu aimerais bien aussi rencontrer, et peut-être l'as déjà tu fait, c'est Stéphane Paoli.
C'est mon idole, je l'ai jamais rencontré. C'est je lui ai piqué tout. C'était un, et c'est rigolo parce que il y avait, quand j'avais 19-20 ans, donc quand j'étais à l'IEP justement à Bordeaux, je faisais mon cycle d'études et j'allais manger chez moi à Talence, dans mon petit appart, et à 14h il y avait cours, donc je faisais le matin à la radio. Dès que j'avais fini la radio, je faisais mes TP, et puis après j'allais en cours et j'écoutais le journal de 13h d'Europe 1 présenté par Stéphane Paoli, le fils de Jacques Paoli, qui était le grand présentateur du 18h de RTL. Et après, sur Europe 1, en fin d'après-midi, il y avait un type qui s'appelle François Jouffa, qui faisait une émission musicale qui s'appelait Vinyl Fraise. Et l'autre jour, il y a un mois et demi, j'ai rencontré François Jouffa dans un restaurant que je connaissais pas. Je me suis levé, je suis allé le voir, et je lui ai dit, écoutez, bonjour, je suis ex-Jean-Jean, vous ne me connaissez pas, mais je sais écouter. Je dis, ben, je voulais juste vous dire merci parce que toutes les émissions musicales que j'ai bâties, elles sont toutes à un moment ou à un autre inspirées de Vinyl Fraise. Et donc, il était très, très touché, puis c'était rigolo, puis du coup, on a parlé de musique. Bref, voilà. Donc, j'ai piqué, cette période d'Europe 1 était une période fascinante, et j'ai piqué à Jouffa plein d'idées, et j'ai surtout piqué ma façon de parler à Paoli, parce que quand vous êtes animateur débutant, vous n'avez pas votre style, et donc d'abord vous cherchez des tuteurs. Alors moi j'ai essayé des tuteurs genre Arthur Courbet, tu vois, qui était un peu plus vieux que moi, en essayant de faire des vannes, des blagues, et en fait je suis pas drôle, donc je suis sympa mais je suis pas drôle, donc ça m'allait pas du tout. Donc j'avais un truc, je m'étais pas rendu compte que j'avais une voix de basse, et puis j'ai entendu Paoli et j'adorais sa manière de d'aller sur les gens comme ça, et
le phrasé,
le phrasé,
et puis tu sais, les respirations,
mais grave, et tout ce que faisait cet homme, j'adorais. Et donc, au début, je me suis beaucoup appuyé sur sa manière de parler pour faire de la radio, sa manière d'interviewer aussi. En interview, même encore de temps en temps, je me surprends à dire, putain, Jean-Jean. Et puis après, tu deviens toi-même, tu grandis, et puis tu, voilà. Mais Paoli, ouais, je lui ai volé beaucoup de sa manière de parler. Ça a été un peu mon tuteur, sans que je le connaisse, évidemment, mais tuteur en ce sens agricole du terme, enfin jardinage du terme, c'est-à-dire je me suis appuyé dessus. C'est assez intéressant de l'écouter.
Comme un exemple, quelque part.
Exactement, ouais.
Ce que je trouve fascinant chez vous, Michel, Eric, c'est le travail que vous faites inconsciemment pour trouver les bons mots. C'est ça qui me fascine, c'est ceux qui font du micro, enfin les orateurs, les avocats, c'est les mots. Les mots avec la voix. Moi, je suis très, très sensible à la voix et aux mots.
Michel a une grosse voix, il ne le sait pas toujours.
Ah non, il a une belle voix, lui.
Hein. Ouais, il a une belle voix. Mais
merci.
En fait, moi, à chaque fois que je dois faire un truc ou que je dois faire une intervention, je me mets dans la condition, alors, je vais te raconter une histoire. C'est exactement ça, tu vois. Je vais te raconter une histoire. Alors, toi, auditeur, je ne tutoie pas, évidemment, mais je vais te raconter une histoire.
Le temps.
Ouais, tu vois, et jamais parler à ton micro.
Sans que jamais parler à ton micro, ouais, c'est ça.
Non, jamais parler à ton micro, jamais parler à tes oreilles dans ton casque, jamais parler à ton micro.
Et tu t'imagines, jamais. vous imaginez dans votre tête un visage ?
Non, plus maintenant, mais au début, oui. Et suivant les radios, un visage qui changeait. Tu vois, quand j'ai commencé à Bordeaux, je parlais à ma mère. Quand je suis arrivé à Énergie, je parlais plutôt à ma petite cousine. Et d'ailleurs souvent à des femmes quand j'y pense. Et après
ceux qui sont sur scène font pareil, hein.
C'est vrai.
Ben obligé.
Je savais pas. Toutes les conditions pour parler aux gens, celles qui me gênent le plus, c'est seul face caméra.
C'est l'horreur.
Pour moi, c'est l'horreur. Mais j'ai présenté trois fois des primes pour France 2, C8, et puis le concert de Johnny à la Tour Eiffel. Donc, t'es tout seul sur une scène devant un million de personnes. Et objectivement, ça ne m'impressionne pas. Je suis concentré, j'ai un peu, tu vois, j'ai le trac, et puis ce serait pas normal de pas l'avoir. Ça m'impressionne pas. En revanche, tu me mets tout seul avec un cadreur dans un studio.
Ah, c'est l'horreur.
C'est froid.
C'est froid. Mais parce que l'imagination travaille plus.
Je crois que c'est ça.
On arrive plus.
On
n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que il y a que des appareils devant vous.
Ouais.
Et le type qui est derrière la caméra, c'est la caméra. C'est pas quelqu'un de physique.
T'as raison. C'est pas comme un réalisateur à la radio.
Au cinéma, quand vous tournez ou faites du contre-champ, souvent, vous avez votre partenaire qui est à côté de la caméra. Parce que si vous avez la caméra, votre regard, ça y est, il est perdu.
Mais tu sais, c'est rigolo ce que tu dis parce que je viens de réaliser quelque chose. C'est que moi, je ne travaille jamais en auto-réalisation à la radio. D'abord, je sais pas faire. Mais aussi parce que j'aime pas ça. Et je n'aime pas ça parce que quand je parle à la radio, au fond, mon premier auditeur, c'est mon réalisateur. Et donc, je vois un moment vite, assez vite, si je l'emmerde, si je l'amuse, s'il faut que j'aille plus vite.
Mais une photo de lui, à côté.
ouais, c'est vrai. Non, c'est, je sais pas. Et surtout, quand t'es en autoréalisation, ce qui m'arrive parfois quand je remplace George Lang, tu vois, je me mets à la console comme un DJ, c'est assez cool, tu fais tes enchaînements et tout, mais tu parles plus à ton micro, à ton casque, tu es plus dans ton petit univers que quand tu es un réalisateur où là pour le coup t'expulses un peu plus. Oui Michel.
Est-ce que tu aimes les bons petits plats? Tu aimes cuisiner?
Non. Je suis une catastrophe. Je suis une catastrophe.
C'est pas grave.
Je sais pas cuisiner. J'ai fait mon coming out des grands restaurants. En fait, il y a rien que j'aime plus qu'une entrecôte sur le grill des Sarments chez mes parents. J'ai mangé plein de fois dans des grands restaurants, c'était délicieux, mais c'est pas là que je jouerai ma vie, quoi. J'ai pas l'éducation pour ça.
Bah c'est pas grave.
Si tu fais que de la musique classique. C'est comme si tu fais que de la musique classique, j'ai pas la culture pour tout comprendre, quoi.
Il y a Grâce de Capitanie qui arrive dans Les Artistes ont la parole avec ses recettes de cuisine tout de suite.
Les Artistes ont la parole. Carte blanche à Grâce de Capitanie.
Les Artistes ont la parole, Grâce de Capitanie, bonjour.
Bonjour Michel.
Grâce qui a un super tablier. Ah ouais, un super tablier pour nous préparer un super plat qui est le curry de patates douces et de pois chiches.
Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est une recette absolument végane. Alors, les ingrédients, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 1 morceau de gingembre, 1 cuillère de graines de cumin ou du cumin en poudre, 1 ou 2 cuillères de curry, du piment en poudre, 750 g de patates douces pelées et coupées en petits morceaux, 1 grosse boîte de pois chiches, 1 boîte de dés de tomates ou de chair de tomate, 1 demi-briquette de lait de coco, de la coriandre fraîche ou, si vous n'aimez pas, du persil frais. Alors, la préparation. Coupez les oignons en petits morceaux et les faire revenir dans de l'huile d'olive, dans une cocotte à fond épais, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Émincez le gingembre et l'ail, puis les ajoutez dans la cocotte. Faire dorer à feu doux. Ajoutez le cumin et le faire dorer jusqu'à ce qu'il sentent bien bon. Mettre dans la cocotte l'ensemble des autres ingrédients, à l'exception de la coriandre et du lait de coco. Laissez mijoter à feu très doux 45 minutes. En fin de cuisson, ajoutez le lait de coco bien mélangé. Avant de servir, ajoutez la coriandre ciselée.
À la semaine prochaine, Grâce.
Oui, à la semaine prochaine, Michel.
Merci, Grâce. Tout de suite, on va retrouver ton deuxième choix musical, Eric. Qu'est-ce que tu vas nous...
Et j'ai réécouté ce que je considère être le plus grand album français de tous les temps, qui s'appelle Les Marquises de Jacques Brel. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Orly. Et donc Orly, en fait, c'est une scène où t'imagines Brel, il a une caméra, il regarde un couple comme ça. En fait, en vrai, c'est une histoire qu'il a vécue lui. Il s'est séparé avec une de ses femmes dans un aéroport. Et en fait, il imagine ce couple qui se sépare, qui se déchire, et lui s'en va. Et elle sait qu'elle a perdu. Alors, elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. Et puis, il a des expressions breliennes, quoi. À un moment, il dit, vous allez l'entendre, tout entourés qu'ils sont d'adipeuses en sueur qui les montrent du nez. Putain, cette phrase! Tout entourés qu'ils sont d'adipeuses en sueur qui les montrent du nez. Mec, vas-y, fais mieux derrière. C'est pas possible.
Jacques Brel, tout de suite, dans Les Artistes ont la parole.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime. Elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais « il ». Tout encastré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent, et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure...
Les artistes ont la parole, Michel Berger.
Les artistes ont la parole, troisième volet de cette émission. Merci de votre fidélité, merci d'être ici. Là j'ai modifié ma réplique, Eric Jean-Jean, parce que la tienne c'est merci d'être là. Alors moi je te fais merci d'être ici. Tu m'en veux pas ?
Non, pas du tout.
Et Eric Jean-Jean, on va rappeler qu'on te retrouve quotidiennement, normalement, sur le drive d'RTL2, tu y retournes là bientôt ?
Lundi, là, et puis ça va être impossible de me rater jusqu'à la fin du confinement, parce que je suis en direct sur RTL2 du lundi au vendredi, et vendredi, samedi et dimanche en direct sur RTL.
Alors, je vais t'avouer qu'on a eu très peur pour les sondages Médiamétrie, on s'est posé des questions, parce que depuis qu'il y a le confinement, il n'y a plus de voitures.
Et pour le drive, alors je vais t'avouer un secret, tu sais que les sondages se sont arrêtés il y a 3 semaines, au moment du confinement. En fait, le sondage qui vient de sortir est un sondage plus court. D'ailleurs, c'est un peu embarrassant, notamment pour RTL et peut-être pour Fun Radio aussi, enfin on l'espère, parce que Fun Radio, qui est la troisième radio du groupe, a fait une grosse raclée. On pense que c'est peut-être qu'on aurait peut-être pu sauver le coup sur les 3 dernières semaines de sondage. En fait, le principe des sondages radio, c'est rien à voir avec les sondages télé. Hein. Au lieu d'avoir des boîtes sur des télés qui disent qu'on écoute et à quelle heure, là, en l'occurrence, c'est des appels téléphoniques. Et on demande ce qu'on a écouté les 24 dernières heures. Donc, c'est du déclaratif, c'est complètement autre chose. C'est la raison pour laquelle la radio, c'est pas sali dans des émissions toutes pourries, bien que, mais pas tant que ça, parce que on est quand même obligé d'être un peu fier de dire qu'on écoute telle ou telle radio. Là, les radios, on a arrêté de téléphoner 3 semaines avant, normalement, l'arrêt de ces fameux coups de fil. Donc, ça va, il y avait encore des gens en voiture pour m'écouter. Il y a plus de 60% des gens qui écoutent cette émission dans leur automobile, d'ailleurs.
Oui, effectivement, et c'est la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça va donner ? Où va-t-on ?
Écoute, j'en sais.
Les artistes ont la parole. La minute, nouveauté.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo.
Éric Jean-Jean, ça c'est un discours qu'on a souvent avec Richard Taxi. Il n'est pas trop d'accord avec ma façon de travailler. Il me trouve un peu trop carré, un peu trop rigoureux. Et Richard Taxi, il aurait tendance à vouloir un peu tout casser.
Non, moi je trouve... Il y a beaucoup de qualités, mais c'est pas de la rigueur. Faut pas être trop consensuel. Et je pense qu'il faut poser les questions qu'on a envie de poser. D'ailleurs, la question que je voudrais poser à Eric, c'est est-ce qu'il a, en faisant de la radio, est-ce que vous avez des interdictions ?
Oui, bizarrement, en fait, je travaille pour 2 radios et les règles sont plus strictes sur la plus petite des deux, sur RTL2. RTL2 qui est un programme musical pour lequel, par exemple, je ne peux pas changer les disques que je passe. J'en choisis 3 par heure, mais je peux pas changer ce qu'on m'impose. Je parle au moment où on me dit de parler. J'ai négocié en début de saison en fabriquant mon conducteur, en proposant mon émission, etc. J'ai moins de liberté, et y compris en liberté de ton. Alors que sur RTL, où je suis producteur de mes émissions, ce qui n'est pas le cas à RTL2, je choisis mes disques, je choisis ce que je dis, et je peux à chaque seconde de l'émission préparation changer.
Bah alors quel plaisir vous avez ?
Alors le plaisir que j'ai, c'est deux plaisirs complètement distincts. C'est-à-dire le métier de la bande FM, là je parle d'RTL2, est un métier très technique où on doit être plus strict sur les timings. C'est-à-dire que moi, mon obsession est de raconter des choses quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que sur RTL, j'ai le temps de me poser, par exemple, si j'ai envie de te raconter une histoire de A Day in the Life des Beatles pendant 5 minutes, et que je peux le faire, je le fais. Mais sur RTL2, j'aurais qu'une minute, 1 minute 30. Donc en fait, c'est juste un exercice de style pour essayer de trouver le style que je veux faire en fonction du format sur lequel je travaille. Donc c'est deux formats qui, au fond, sont assez complémentaires. Si je faisais que RTL2, je pense que je serais un peu malheureux. Et si je faisais mes deux émissions par semaine sur RTL, je m'ennuierais un peu. En fait, le mix des deux, c'est formidable. Mais c'est deux exercices techniques qui sont complètement différents. La radio est un exercice très, très technique. D'ailleurs, tu t'en rends compte en disant ça, Richard. C'est-à-dire que le fait de la voix, c'est un exercice. Mais là, je suis complètement dans la déontologie de ma radio. C'est-à-dire que j'ai accepté de travailler sur RTL2, j'en accepte les règles. C'est-à-dire que si je me mets à parler 5 minutes sur RTL2, c'est que je ne respecte pas les règles. Si j'ai accepté d'être sur RTL2, c'est que j'en respecte les règles. Et après, j'essaye toujours de placer ma personnalité à l'intérieur de règles très strictes. Sur RTL, c'est pas pareil. Sur RTL, on m'a embauché pour être qui je suis. Si je fais pas d'audience et si je suis pas bon, je dégage. Mais d'accord. En attendant, on me laisse faire. En fait, tu vois, il y a la manière dont on est traité sur une EFM, mais je parle pas que d'RTL2, parce que je suis vraiment très bien traité sur RTL2, et c'est pas de l'embrouille, j'adore cette radio. Mais en FM, les animateurs sont beaucoup moins bien traités que sur ce qu'on appelle les radios périphériques. C'est-à-dire que sur les radios périphériques, on considère que si on est là, c'est parce qu'on doit être là, enfin je veux dire parce qu'on mérite d'être là, donc on nous fait confiance. Sur la FM, les animateurs sont très infantilisés. C'est-à-dire que si vous faites un créneau de flux sur énergie, par exemple, on va vous faire parler 3 fois dans l'heure, et dans ces interventions qui vont durer 20 secondes, on va vous dire de citer 4 fois la marque, d'annoncer la promo de la nouvelle émission de Koé, et puis le nom de la chanson qui vient, mais pas celle qu'on vient d'écouter, parce qu'on parle pas du passé. Toutes ces règles DJ à la con, qui fait que les animateurs sont juste des gens qui font du bruit avec leur bouche face à un micro. Mais ça, c'est de la radio que je sais pas faire, et surtout que je veux pas faire. Alors, s'il fallait que je le fasse pour gagner ma vie, évidemment, je pense que je le ferais, mais tant que j'ai le choix, je préfère être moi-même, quoi.
Éric Jean-Jean, avec nous dans Les Artistes ont la parole. On va retrouver.
Je voulais dire quelque chose. Ah, pardon, parce que...
Oui, Florence.
Éric, donc vous avez une liberté d'esprit qui vous est chère.
Ouais, je crois que j'ai souvent parlé de ça avec justement un de mes meilleurs potes qui fait votre boulot, qui est psychiatre. Et parmi les valeurs qui sont les plus importantes pour moi, la valeur qui prédomine, c'est la liberté. J'aime la moto. Je supporte pas d'avoir des gens qui m'obligent à faire des choses que je comprends pas. J'ai un problème avec l'autorité. La liberté, ouais, c'est une valeur fondatrice et fondamentale pour moi. Ouais, mais ce qui m'empêche, ce qui me fait souvent faire des conneries, hein. Mais oui, la liberté.
Et justement, aujourd'hui, là, dans le confinement dans lequel on vit, Eric, c'est vrai que cette liberté, elle est pas physique, mais elle peut être psychique, mentale. Alors, comment vous la vivez là ? Comment tu la vis aujourd'hui ?
Ça entraîne chez moi une créativité de dingue. Je viens de finir d'écrire une série que j'étais en train d'écrire depuis quelques mois et du coup j'ai eu le temps. Je suis très parasité. Je me laisse vachement parasiter par les gens. J'aime bien discuter avec les gens. Je suis bavard, t'as remarqué. Donc voilà. Et donc là, je suis chez moi et donc j'ai écrit cette fameuse série qui Jane touche. Oh. Si tout va bien avec Netflix et une prod, et puis cette série m'a donné l'idée d'une autre histoire que je suis en train de maturer, d'une espèce de dictature écologique qui régnerait sur le monde. Hier, j'avais lu le bouquin il y a très longtemps, et hier j'ai regardé 1984, le film, et j'avais oublié un truc qui est génial dans une dictature. Ils utilisent une langue qui s'appelle la neuve langue et en fait les dictateurs ils refont tout le temps le dictionnaire. Plus ça va, moins il y a de mots. Et moins il y a de mots, moins tu peux exprimer ta pensée. Et pour une dictature, putain, c'est génial. Donc voilà, j'ai ça en tête depuis hier. Donc tu vois, ça, c'est la liberté là, elle est plutôt très intellectuelle. Ouais, c'est chouette. Enfin, moi, je vis assez bien le confinement, contrairement à ma chérie qui est une grande voyageuse et qui est un peu comme un lion en cage.
On va retrouver, on va partir en voyage.
Michel, il ne sait plus comment faire pour attraper son timing. Allez.
On va partir en voyage tout de suite à Nyons avec Marie-Francisco pour sa superbe chronique.
Les artistes ont la parole. Les astuces de Marie.
Les artistes ont la parole, une nouvelle chronique de Marie Francisco. Bonjour Marie.
Bonjour Michel.
Aujourd'hui, vous allez nous parler d'amour.
Oui, et de la température. Attention.
La température, attention, on va y avoir de la fièvre là.
Savez-vous que pendant les préliminaires ou lors des jeux sexuels, les baisers sont indispensables à la montée du désir et à l'atteinte de l'orgasme? Le baiser de la lèvre supérieure, soyez joueur. Le baiser intime le plus efficace pour accroître son plaisir. Le baiser du lobe d'oreille, très érogène. Le baiser fougueux quand vous êtes en confiance. Il n'existe pas vraiment de règles en matière de baiser. L'essentiel étant de chercher à donner du plaisir à l'autre et d'en prendre mutuellement.
Merci Marie-Francisco. On va écouter tout de suite de la musique. On aime bien ça, Eric Jean-Jean, tu sais bien. Alors là, en troisième partie, qu'est-ce que tu vas nous sélectionner?
Français ou anglais?
Ce que tu veux, c'est toi, t'es libre.
Et tiens, voilà ce que je vais faire. Je vais te faire écouter Rock de Casbah, de Clash.
Tu sais
que cette chanson, elle a été écrite en fait par Clash juste après que l'ayatollah Khomeini soit revenu en Iran. Et il avait fait un truc dingue, il avait interdit le rock'n'roll. Donc la chanson raconte l'histoire de jeunes qui veulent écouter du rock'n'roll. Et donc on envoie les avions militaires pour leur tirer dessus. Et les jeunes réussissent à faire écouter du rock à l'intérieur du cockpit des avions qui s'en vont et qui tirent sur personne. Donc Rock de Casbah, Clash.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Les artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole, quatrième volet de cette émission. Éric Jean-Jean est là avec nous, en notre compagnie. Enfin, il est là avec nous à distance, hein, parce que on fait du télétravail pour la radio. Nous avons en notre compagnie Éric Jean-Jean, et c'est ce qu'on expliquait. On fait du télétravail pour la radio. Il y en a qui expliquent.
Ouais, ouais, on écoute.
On est là.
Ça intéresse tout le monde. Ça fait plaisir. Éric Jean-Jean.
C'est reparti ?
Oui, c'est reparti. Nous sommes à l'antenne. Et Éric, alors, on sait que tu nous avais raconté ça. Il y a un superbe festival dont tu t'occupes à Talence, mais il y a Florence qui voulait.
Il n'y en aura pas cette année.
Il n'y en aura pas cette année. Du tout.
Non. On a annoncé hier qu'on ne peut pas jouer. De toute façon, on était prévu pour le 1er juin. On avait 3 dates. Le confinement ne sera pas terminé. On commence à en être sûr maintenant. Voilà.
Et oh merde.
C'est comme ça.
Florence, tu voulais évoquer un festival, un autre festival, Florence ?
Non, ce n'était pas un festival. Je voulais vous poser une petite question, Éric, et je trouvais que c'était comme quoi tu as été sollicité pour la foire de Châlons, pour la passer ouais. En foire en scène, et ouais. Pour promouvoir un petit peu les concerts, les mettre à la portée de tous. Puisque tu proposais justement 5 euros par personne pour les gens ouais. qui rentrent à cette foire et qui pouvaient avoir accès à des genres musicaux différents, des mixtes avec ouais. des billets, des programmations diverses et variées. Et je ouais. trouve que cette idée était super. Est-ce ouais, que tu as permis d'avoir cette idée ?
Je suis un fils d'élu socialiste. Mon père était un élu socialiste. Je ne fais pas politique, ça. J'y comprends rien, ça m'intéresse pas, même si c'est de formation scolaire. J'ai un fils d'élu socialiste et pour moi, le partage, enfin, l'échange, et notamment dans ce que je sais faire, qui est la musique, c'est important que ce soit accessible à tous. Et les deux festivals dont je m'occupe, un dont je suis parrain, que j'ai créé il y a 5 ans, qui est le Festival des Pompiers, s'appelle le Festival ODP, et là, pour le coup, moi, j'ai perdu de l'argent au départ, mais c'était, enfin, je sais, c'est pour les orphelins des pompiers de France. Donc, c'est celui-là qu'on vient d'annuler. Pour ce qui est de Châlons, pourquoi est-ce que je suis allé dans ce festival? Parce qu'en fait, c'est le seul festival en France qui est gratuit si tu payes ton entrée pour la foire. En fait, les gens de la foire de Châlons faisaient venir des artistes. Alors, ça a commencé, je crois qu'il y a plus de 70 ans, cette foire. Genre, on fait venir Yvette Horner, tu vois, pour faire venir du monde, quoi. Et c'était cool. Et moi, ils viennent me voir à un moment en disant « Est-ce que tu veux travailler avec nous et tout ?» Et on n'arrive pas à faire exploser le festival. Je leur dis « Moi, je veux bien. » Et surtout, c'était l'idée qui me plaisait. Je leur dis « On va faire un vrai festival, d'où le changement de nom, pour pouvoir être dans la liste des festivals. » Et surtout, on va faire en sorte que ce festival soit gratuit. C'est-à-dire que si vous prenez un couple, un papa et une maman, ils vont payer 5 euros l'entrée de la foire. Ils vont passer leur journée à la foire. Les enfants vont payer 2,50 € chacun. Ça veut dire que pour 15 euros, tu vois le concert de Patrick Bruel que tu vois à la U Arena pour 60 euros. Mais sauf que pour 15 euros, tu le vois à 4. Si tu fais la même chose à la U Arena, ça fait 6 x 4, 24. 240 euros. Donc en fait, je suis toujours très ému, notamment le dimanche, qui est une journée très populaire. Le dernier dimanche qu'on a fait, c'était Patrick Bruel. L'autre encore avant, c'était Matt Pokora, donc c'est un festival très très populaire. Et j'étais avec le président de la foire, qui est un de mes meilleurs potes, et on était en train de marcher tous les deux dans les travées, puis on voit une famille avec un papa et une maman qui visiblement ont vraiment pas beaucoup d'argent, vraiment pas beaucoup, et deux petits qui ont les yeux mais qui pétillent parce qu'ils vont voir Matt Pokora, parce qu'ils ont vu à la télé ce mec dans The Voice. Et moi, rien que de vous en parler, ça m'émeut encore. C'est-à-dire que ce festival, il est important parce que c'est le seul en France qui est du niveau de n'importe quel festival national, mais qui est, alors gratuit, c'est pas vrai, parce que on paye l'entrée à la foire, mais la queue de Pénélope, c'est mon petit chat qui vient de passer,
c'est un
festival qui,
bonjour Pénélope.
C'est Pénélope, ouais.
Caresse à Pénélope.
Voilà, j'adore ce chat. Et donc, c'est un festival qui permet là, cette année, là, j'ai plus la prendre en tête, mais on va avoir, on a Aubert, Souchon, moi j'ai un gros budget de la part du festival qui est vraiment une dépense pour la foire. C'est une dépense sans aucun argent récupéré, mais c'est une dépense qui fait venir des gens à la foire. Attention, c'est pas non plus que cadeau, mais évidemment, c'est une dépense que le service public des mairies, etc., ne peut pas faire. Et moi, être à la tête de ce festival, en tout cas de la programmation de ce festival, je suis fier de ça parce que justement, c'est un festival qui amène l'accès à la culture à des gens qui n'y ont pas accès. Et quand je parle de culture, je parle pas de culture avec un C majuscule, je parle de la culture pop, qui est une culture qui est tout à fait défendable. Et moi, je défendrai tout le temps ce festival, tant qu'il me sera donné de le faire, parce que je trouve que c'est honnête. Enfin, je trouve que c'est chouette. Mais je te dis, c'est le fils du maire, du conseiller général de la région avec l'étiquette socialiste.
Animateur radio bien engagé, Éric Jean-Jean.
Comment ?
Animateur radio bien engagé.
Pas vraiment engagé, parce que faut pas déconner, je suis un bobo, quoi. Je vis comme un bourgeois, j'ai mon petit appartement dans l'ouest de Paris, je vis bien, enfin, tu vois, je suis vraiment un privilégié, quoi. Je suis très conscient de ça. En revanche,
un truc. Mais c'est ce côté partage, cette humanité,
oui,
que tu as.
Mais ça, c'est gentil.
Et top.
C'est gentil, mais ça c'est les parents vraiment, hein. Tu vois, moi je connais les tables à 20 personnes à la maison, je connais les salles des fêtes, ma mère qui fait la bouffe pour tout le monde pendant 3 jours, je connais ça et j'adore ça. Et moi je viens de là, mon père était un politique, mon grand était un skip. Enfin, tu vois, je viens de là, quoi. Je viens d'un petit village qui s'appelle Prignac et Marcon, il y a 1700 habitants. Je suis hyper content de venir de là parce que rencontrer Michael Jackson quand tu viens de Prignac et Marcon, c'est cool. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et le partager avec
des d'ailleurs gens, il en est mort.
Ça lui a pas rendu service. Enfin, voilà, bref, ouais je suis assez fier de ça, mais c'est rigolo parce que je suis retourné il y a pas très longtemps au village. Il y avait le patron de la boîte de nuit où j'ai financé tous mes étés. Je suis un grand consommateur de motos. Et donc, à partir de 15-16 ans, j'ai eu mes premières motos. Je l'ai payé en étant DJ dans cette boîte-là. Et il a eu des problèmes de santé. Il faisait une soirée avec plein de gens. Et il m'a demandé de venir à cette soirée. Évidemment, je suis allé la présenter. Et j'ai revu tous ces gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, qui étaient les gens que je faisais danser quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et avec l'impression que j'avais une dette envers eux. Et peut-être même l'impression de pas avoir complètement payé ma dette. Je pense bien qu'ils auraient bien aimé que je sois Nikos, mais moi je pouvais pas être Nikos d'abord parce qu'il y en a qu'un, et puis parce que je préfère faire ce que je fais, et puis parce que on m'a pas proposé d'être Nikos non plus. Mais tu vois, il y avait un espèce d'espoir posé. Alors ils sont hyper fiers de moi, c'est hyper mignon, c'est hyper touchant, et à la fois tu te dis tu mérites pas trop. Enfin, c'est assez rigolo cette relation que j'ai avec cette région qui est la région de Bourg-sur-Gironde, si vous connaissez.
Et de légitimité.
Ouais, ça, il y a toujours eu ça, mais parce que je suis, en fait, tu vois, c'est jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire de Prignac-Marcan jusqu'à Prime TF1 avec Jean-Pierre Foucault, j'ai jamais cherché de boulot de ma vie. On est toujours venu me chercher. C'est assez compliqué de se trouver légitime là-dedans, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je travaille autant, c'est aussi pour ça que je suis autant allé à l'école, c'est aussi pour ça que j'en fais autant. Parce qu'à un moment, j'ai eu tellement de chance que c'est interdit de pas bosser, quoi. Et puis c'est interdit de se la jouer perso non plus. Parce que je fais partie des 2% de Français qui vivent de leur passion et qui ont eu super bien. T'imagines, tu m'aurais dit à 15 ans,
c'est énorme.
Mec, tu vas travailler sur la première radio de France, et puis tu vas rencontrer toutes les gens que tu veux, tu vas faire un peu de télé. J'ai été plutôt pas mal servi au niveau du boulot.
Avec une baguette magique. Cette émission se termine déjà, mais avant, nous allons retrouver la chronique.
Les artistes ont la parole. La minute équilibre. Fleur Smamiglio.
Un Français sur 3 souffre de troubles du sommeil. En cette période de confinement et de stress, notre rythme est bouleversé. Notre cycle éveil-sommeil dépend du rythme jour-nuit, qui joue un rôle de synchroniseur sur notre horloge biologique. C'est elle qui gère entre autres les enzymes et les hormones. L'hormone la plus importante dans la régulation du sommeil est la mélatonine. Elle régule les rythmes chronobiologiques, mais surtout elle est synthétisée la nuit à partir d'un neurotransmetteur, la sérotonine, qui elle vient du tryptophane. Le tryptophane est le plus rare des acides aminés essentiels. c'est un constituant des protéines qui doit être fourni par notre alimentation. Un bon sommeil est essentiel à notre mieux-être, mais une bonne alimentation est essentielle à un bon sommeil. Alors on commence par quoi ? Pour garder le rythme, il vous faut les trois repas. Le petit déjeuner, il est le starter de votre chronobiologie. Le déjeuner, prendre le temps de manger, vous pouvez vous permettre de faire le plein de protéines car vous avez le temps de les digérer, avec de petites portions de sucre lent et éviter les sucres rapides. Le dîner ne doit pas être pris trop tôt ni trop tard. Le soir, consommez les aliments qui contiennent du tryptophane et des glucides sous forme de sucre lent. Les légumes secs, les céréales complètes, la banane, les noix de cajou, les amandes, les œufs, les produits laitiers, les coquillages et la viande. Attention à la viande rouge, celle-ci est à consommer avec modération car elle contient de la tyrosine, un précurseur des hormones qui stimulent l'attention et la vigilance. Et les boissons dans tout ça ? La caféine est une substance qui inhibe le sommeil. On la trouve dans le café, mais aussi dans le thé, le chocolat et certains sodas. Rappelons aussi que l'alcool est à consommer modérément. Il peut favoriser l'endormissement, mais procure un sommeil de mauvaise qualité. Alors prenez soin de vous en gardant votre rythme de lever et coucher et pratiquez de l'activité physique et une bonne alimentation. Et votre sommeil sera meilleur.
Et Eric Jean-Jean, c'est terminé. Oui. Oui, l'émission touche à sa fin déjà. T'as passé une vitesse.
Ça passe trop vite, c'était bien, c'était chouette.
Ça passe trop vite. Tu reviens, t'as pas travaillé là, t'as fait de la radio.
Non, j'ai pas travaillé.
Je te reprends.
Tu vois, ça fait, t'imagines, j'ai 53 ans, 52 ans, bientôt 53, et ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais de la radio que j'ai pas l'impression de travailler. Jamais
faut
de
faut trouver un mot pour ça. Quand on travaille avec plaisir, on peut pas dire mot travailler.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, au-delà de ça, parce qu'il y a des passions qui sont non rémunératrices, mais qui sont intéressantes aussi. Mais moi, j'ai des passions coûteuses. La plongée, c'est une passion coûteuse. La moto, c'est une passion coûteuse. Mais le boulot, qui est ma plus grande passion, c'est celle qui me fait vivre. En fait, tu sais quoi, Richard, peut-être que c'est ouais. je travaille pas à la radio, je vis de la radio. Et c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être payé pour vivre. Tu vois.
Et puis il ne faut pas trop se poser de questions non plus, parce que toutes les questions qu'on me pose là, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on fait de l'introspection, on n'a pas envie d'avoir trop ce genre de questions peut-être, non ?
Mais c'est rigolo de les avoir parfois avec des copains, là, tu vois, c'est sympa de le faire, mais généralement c'est moi qui pose les questions, donc...
Ouais, ça change, hein.
Ça change. Que l'émission est vraiment terminée, Eric Jean-Jean. Quelque chose à rajouter pour le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'était merci. Je suis content d'avoir revu Richard et d'avoir fait votre commission surprise. C'était chouette. Et à bientôt, Michel. Et n'oublie jamais, il faut bosser.
Eh ouais, c'est ce qu'on fait. On n'arrête pas. À bientôt, Eric. Salut tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine de nouvelles aventures. Ciao. Salut, ciao, bye. Au revoir, tout le monde.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables? S'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables? Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration? S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions? On se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius.
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel? Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme. Et de nos fenêtres, on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail. Et même avec l'extérieur, on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles. Et chaque jour, on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros? Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines. Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait. Il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent, on redécouvre les transparents de la République.